Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nathalie Amar.
Bonjour à tous, bienvenue dans une demi-heure notre débat sur les mesures en vigueur chez vous contre le Covid-19. Êtes-vous toujours aussi vigilant? Continuez-vous d'appliquer les gestes barrières, la distanciation, le port du masque, le lavage régulier des mains comme aux premières heures de la pandémie? Question cruciale alors que les frontières aériennes de plusieurs pays, le Togo, le Tchad, le Niger, le Burkina sont à nouveau ouvertes, que dans beaucoup d'autres pays les restrictions sont levées. Question cruciale aussi parce que la direction Afrique de l'OMS alerte, on est à un moment charnière de la pandémie. Il faut garder le cap de la prévention. L'Afrique approche du million de cas, dont une bonne moitié en Afrique du Sud. Alors où que vous soyez sur le continent, appelez-nous, racontez-nous vos témoignages. Vous nous intéressez, vous connaissez le numéro 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions sur l'actualité. Bonjour Samuel.
Bonjour Nathalie et à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en ligne de Koupéla au Burkina Faso. Samuel, quelle est votre question?
Au fait, l'ex-président centrafricain François Bouzézé, passé au pouvoir en 2013, vient d'être désigné candidat du parti Kwanakwa pour l'élection présidentielle de décembre prochain. Comment sa candidature peut être conseillée avec les sanctions de l'ONU et le mandat d'arrêt lancé par la Centrafrique contre l'ex-président?
Alors, pour vous répondre, Samuel, c'est Charlotte Cossé, la correspondante d'RFI à Bangui, qui est en studio ce matin. Bonjour Charlotte.
Bonjour Nathalie, bonjour Samuel.
François Bozizé, arrivé au pouvoir en 2003, chassé, on l'a dit, 10 ans plus tard, en 2013, par la rébellion de l'ex-Séléka, rentré à Bangui mi-décembre, après 6 années d'exil, avec la volonté donc de revenir dans le jeu politique. Alors Charlotte, peut-être faut-il rappeler, pour commencer, quelles sont les sanctions qui pèsent sur François Bozizé?
Alors, comme l'indique Samuel, deux types de sanctions pèsent sur François Bozizé. Il y a celle des Nations Unies qui date de 2014. Elles l'ont inscrit pour son rôle actif dans la déstabilisation du pays après le coup d'État de 2013 et notamment son influence qu'il a pu avoir dans l'attaque de Bangui du 5 décembre 2013. Le Conseil de sécurité lui reproche de manière plus générale son soutien et son rôle dans la réorganisation du mouvement anti-Balaka. Parmi les sanctions, le gel des avoirs et l'interdiction pour François Bozizé notamment de voyager, ce qui ne l'a néanmoins pas empêché de rentrer en décembre dernier.
Alors l'autre question, Charlotte, c'est celle du mandat d'arrêt international déposé contre François Bozizé, cette fois par le gouvernement en 2013.
Alors à l'époque, une enquête judiciaire avait été ouverte sur les violations des droits de l'homme qui auraient été commises durant son mandat, les assassinats, séquestrations et arrestations arbitraires, exécutions sommaires, etc. Et ce mandat d'arrêt est toujours pendant et fait peser contre lui l'incertitude d'une possible arrestation. Alors tous ces paramètres sont contraignants, bien sûr, pour l'ancien chef d'État. Ils peuvent limiter sa marge de manœuvre pour faire sa campagne. L'inconnu reste l'implication que peut avoir le mandat d'arrêt et ses autres sanctions sur la validation de sa candidature, à la fois par l'ANE et par la Cour constitutionnelle. Et pour rappel, le dépôt des candidatures officielles est prévu début octobre à Bangui.
Alors Samuel, vous aviez une autre question pour Charlotte Cossé? On vous écoute.
Comment la population centrafricaine accueille cette annonce?
Charlotte.
Alors, il est difficile de donner une image réelle et fidèle des intentions de vote, étant donné qu'il n'y a pas d'institut de sondage en Centrafrique. Cependant, ce qui est certain, c'est que l'ancien président dispose encore d'une cote de popularité importante dans son bastion, la région de Bossangoa, mais aussi à Bangui. Ses rares apparitions, déplacements dans la capitale sont toujours l'occasion de démonstrations d'enthousiasme, même si certains détracteurs affirment qu'elles sont orchestrées par son parti. Alors, la plus significative qu'on a en tête avait été la sortie de l'ex chef d'État chez son coiffeur il y a quelques semaines, qui avait été accompagné d'un défilé de curieux et de taxi-motos qui avait perturbé de manière importante la circulation dans la capitale, ce qui avait valu certaines désapprobations.
Alors Samuel avait une autre question, je vais m'en faire le porte-parole. Charlotte, il demandait quelle était la réaction des autorités centrafricaines à cette candidature. Alors vous avez eu en ligne, et on a pu l'entendre ce matin sur l'antenne, le Premier ministre centrafricain Firmin Grébéda. Que vous dit-il?
Alors oui, le Premier ministre a déclaré ce que les autorités ont répété à plusieurs reprises, à savoir qu'ils considèrent François Bozizé comme tout autre candidat. C'est donc aux instances en charge de déterminer la validité de sa candidature et les autorités réaffirment vouloir des élections libres aux résultats incontesté.
Et cet entretien avec le Premier ministre centrafricain est évidemment à retrouver sur RFI.fr, sur nos applications mobiles ou à réécouter même tout à l'heure dans Afrique Midi avec Mehdi Medeb à partir de 12h30, ton universel. Merci Charlotte Cossé. Samuel, a-t-on répondu à vos interrogations ?
Oui, très bien. Merci à vous.
Merci et bonne journée à vous, Samuel. Bonjour Thierno.
Bonjour Nathalie et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors vous nous appelez de Conakry, en Guinée. Quelle est votre question ?
Oui, le Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU a publié un rapport détaillant les risques encourus par les migrants d'Afrique subsaharienne et les exactions qu'ils subissent. Que fait-on des personnes qui commettent ces exactions ? Sont-elles poursuivies par la justice internationale ou celle de leur pays ?
Alors Thierno, nous sommes en ligne pour vous répondre avec le représentant spécial du Haut Commissariat aux réfugiés pour la Méditerranée. Bonjour Vincent Cochetel.
Bonjour, merci à cet auditeur de cette très bonne question.
Alors ce rapport, on rappelle hein, simplement pour ceux qui ne l'auraient plus en tête, a été publié mercredi dernier. Il est le résultat, Vincent Cochetel, d'entretiens avec 16 000 personnes passées notamment par la Libye hein, sur cette route des migrations. Et le résultat est terrifiant hein, sur la façon dont les réseaux criminels se sont emparés des migrants comme des proies faciles hein, pour toutes sortes d'exactions, viols, détentions arbitraires, trafic d'êtres humains. Vincent Cochetel, pour répondre précisément à la question de Thierno, sait-on qui est à l'origine de ces exactions ?
Alors, sur les routes, bonjour à tout le monde, sur ces routes, en particulier de l'Afrique de l'Ouest qui mène vers l'Afrique du Nord, nous savons que 47% des auteurs d'actes de violence contre des réfugiés ou des migrants sont des agents des forces de l'ordre. Donc là, personne n'est au-dessus de la loi. Les États nous disent souvent « Ah, bon, on ne peut rien faire, ce sont les passeurs, ce sont les trafiquants ». Cette enquête montre le contraire, que la plupart des exactions commises sur cette route sont l'œuvre d'autorités en charge du maintien de l'ordre.
Et c'est vrai dans tous les pays de transit, pas seulement la Libye ?
Alors c'est vrai sur la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, c'est moins exact pour les pays d'Afrique de l'Est où là ce sont beaucoup plus les passeurs et les trafiquants qui sont responsables des exactions.
Mmh. Thierno voulait savoir s'il y avait des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes de violence. On imagine, compte tenu de ce que vous nous dites, hein, que le fait qu'ils soient souvent, dans presque la moitié des cas, des agents des forces de l'ordre, complique peut-être le travail des autorités et retarde les procédures, non ? Comment ça se passe ?
Tout à fait, il y a malheureusement trop de tolérance, pas assez de mécanismes de plainte, même pour les familles qui ont perdu l'un des leurs, qui est manquant, on ne sait pas où ils sont. Alors il y a quelques bons exemples de poursuites judiciaires au Niger, en Éthiopie, au Soudan, mais malheureusement pas assez dans l'Afrique de l'Ouest, où on a un certain nombre de faits très, très clairs sur qui est impliqué. On a aussi des passeurs et des trafiquants notoires qui ont été sanctionnés par les Nations Unies dans le rapport du rapporteur spécial sur le Mali. Malheureusement, ces personnes ne sont pas inquiétées.
Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, quand il y a des preuves, la justice ne se met pas toujours en route et il y a en amont aussi la difficulté de réunir des preuves sur un trajet comme ça qui n'est pas un trajet ordinaire de voyage, qui est un trajet de migration semé d'embûches et parfois très très dur.
Parfois très dur, parfois très long, très coûteux et plein de déceptions et de fausses promesses par des passeurs qui vous vendent et revendent à d'autres trafiquants. Les gens n'ont pas accès à la justice facilement, ne parlent pas forcément la langue, n'ont pas d'aide judiciaire, n'ont pas d'aide d'urgence. Donc les gens sont vraiment livrés à eux-mêmes et se font broyer dans les promesses de ces vendeurs de mort.
Vincent Cochetel, Thierno avait encore une autre question pour vous, Thierno. On vous écoute.
Oui Nathalie, qu'attend l'OACR de gouvernement lorsqu'il appelle à moins de mots et plus d'actions ?
Alors le Haut Commissariat aux réfugiés, effectivement, qui dit moins de mots, plus d'actions, ça rejoint ce que vous nous expliquiez, Vincent Cochetel, mais concrètement, comment contraindre les États à agir ?
Alors bon, déjà, il faut partager un petit peu plus d'informations avec les États. Il y a une certaine méfiance des pays européens à partager l'information détaillée qu'ils peuvent avoir sur un certain nombre de trafiquants ou d'exactions commises par les autorités. Il faut partager cette information. Il faut tenir la justice des pays de transit comptable de ces exactions. Et si on ne peut pas arrêter tout le monde, ben qu'on commence avec les trafiquants notoires, ceux qui sont connus, ceux qui œuvrent depuis des années au trafic d'êtres humains. Ils doit être possible de les arrêter parce que malheureusement, c'est l'impunité qui permet à ces crimes de se multiplier.
Mmh. Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire récente de ces migrations et de ces trafics quelques procès malgré tout, Vincent Cochetel ?
Alors, il y a eu des procès à Agadez, au nord du Niger. Il y a eu à peu près 500 procès sur l'ensemble des routes menant en Afrique de l'Est. Ça manque beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest. Il faut que les procureurs soient beaucoup plus agiles et réactifs à ce type d'exactions qui sont commises.
Vincent Cochetel, représentant spécial du Haut Commissariat aux réfugiés pour la Méditerranée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour répondre ce matin aux préoccupations de Thierno. Thierno, bonne journée à vous, à Conakry. Eh bien voilà, je crois que la ligne a coupé avec Conakry. On vous souhaite malgré tout une excellente journée, 8h21 dans la capitale guinéenne. On va prendre à présent la direction du Sénégal, Dakar, où nous rejoignons l'une de nos correspondantes. Bonjour Manon Laplace.
Bonjour Nathalie.
Merci d'être avec nous. C'est Hassan qui a une question pour vous à propos de son forfait de téléphone. Bonjour Hassan.
Bonjour Nathalie.
Quelle est votre question ?
Au Sénégal, l'opérateur Orange a augmenté le prix de certains de ses forfaits. Le mien est passé de 1900 à 4700 par mois, seulement une heure d'appel en plus. Ma question était de savoir pourquoi Orange a-t-il aussi fortement augmenté le prix de ses forfaits? L'opérateur envisage-t-il de revenir sur cette hausse?
Alors Manon, c'est vrai que si on évoque cette affaire aujourd'hui dans cette émission, c'est parce que non seulement elle agite les réseaux sociaux avec des commentaires peu amènes hein, pour Orange Sénégal, mais les associations de consommateurs sont vent debout, même les politiques s'en sont mêlées. Pourquoi une telle hausse Manon et comment Orange la justifie-t-elle ?
Alors avant toute chose, il faut préciser que l'augmentation des tarifs dont on parle ne concerne pas toutes les offres d'Orange. Elle concerne ce qu'on appelle les illimix. Les illimix, ce sont ces offres qui mêlent connexion Internet, appels téléphoniques et texto. Et il faut rappeler que le prix de ces forfaits avait été drastiquement revu à la baisse en novembre 2019. À l'époque, Orange avait été bousculé par l'arrivée au Sénégal de Free et face à la concurrence, l'opérateur avait ajusté ses offres. Aujourd'hui, face au mécontentement des utilisateurs, Orange reste très prudent en matière de communication et donne peu de détails sur ce qui a motivé un nouveau changement de tarif. L'opérateur a tout de même publié un communiqué à la fin du mois de juillet pour s'expliquer. Dans le document, il évoque des investissements visant au développement de son réseau et ces investissements pourraient en partie expliquer la hausse des prix. On en saura sans doute un peu plus cet après-midi après la conférence de presse qu'Orange doit tenir à Dakar.
Il y a peu de chances pour répondre à l'autre question que nous posait Hassan que l'opérateur envisage de revenir sur cette hausse, hein, plus de deux fois le prix du forfait initial de 1900 à 4700 francs pour le forfait d'Hassan. Il n'y a pas de retour en arrière envisagé pour l'instant.
Alors non, pour l'instant rien n'indique que l'opérateur ait l'intention de revenir sur sa décision. La ligne de défense d'Orange est qu'il a créé de nouvelles offres plus adapté aux besoins de ses consommateurs, avec par exemple plus d'accès à Internet la nuit. En substance, l'opérateur dit qu'il a changé le contenu de ses forfaits et que par rapport au contenu précédent, les prix seraient finalement même moins chers qu'avant.
Alors Hassan, vous aviez une deuxième question pour Manon Laplace à Dakar, on vous écoute.
Oui, j'ai une autre question. J'ai entendu que Macky Sall avait réagi. Les autorités peuvent-elles empêcher cette augmentation aussi importante ?
Manon ?
Alors effectivement, Hassan, le président Macky Sall a demandé en Conseil des ministres que l'autorité de régulation des télécoms et des postes, la RTP, veille, je cite, à la qualité du service délivré par les opérateurs et à la soutenabilité des tarifs appliqués. Aujourd'hui, des concertations sont en cours entre Orange et les autorités, mais il faut savoir que le gouvernement ne peut pas sanctionner Orange pour ces tarifs car Orange est un opérateur privé. En revanche, si la RTP estime qu'Orange pratique des tarifs qui ne sont pas conformes au pouvoir d'achat des Sénégalais, elle pourrait par exemple décider de laisser ses concurrents casser les prix, voire même faire du dumping et ne pas intervenir. En d'autres termes, elle pourrait laisser une marge de manœuvre aux concurrents d'Orange, ce qui constituerait une pression supplémentaire sur l'opérateur pour le pousser à revoir ses tarifs. Et la sanction viendrait alors directement des consommateurs, dont certains ont d'ailleurs déjà décidé de boycotter Orange et de résilier leur abonnement.
Manon Laplace, la correspondante, l'une des correspondantes d'RFI au Sénégal. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci à Hassan pour son appel dans un quart d'heure dans la deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle qu'on fait le point sur la pandémie de Covid-19 alors que l'OMS sonne à nouveau l'alerte pour le monde entier et pour l'Afrique. Mais on va amorcer le sujet déjà avec Bruce qui est en ligne de Brazzaville. Bonjour Bruce.
Bonjour Nathalie.
Alors vous aviez une question qui concerne le port du masque aux États-Unis. On vous écoute.
Et là, effectivement, le président américain a finalement changé d'avis sur le port du masque qu'il ne jugeait pas utile depuis le début de la pandémie. Il considère désormais que c'est un geste patriotique. Je veux savoir, pourquoi le président a-t-il changé d'avis aussi brusquement sur le sujet ?
Alors,
un choix sanitaire ou un choix politique ?
Ah, choix sanitaire ou choix politique, c'est vrai, Basile, que cette question du port du masque est devenue, hein, dans certains pays, dont les États-Unis, éminemment politique. Certains dirigeants, dont Donald Trump ou le Brésilien Jair Bolsonaro, se sont vantés un moment de ne pas le porter. Bonjour, Harim Lipold.
Bonjour, bonjour Bruce, bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Journaliste au service international d'RFI en charge de l'actualité des Amériques, comment interpréter le revirement de Donald Trump ?
Alors, il faut savoir qu'il lui n'a pas donné d'explication officielle. Hein. Il n'a pas expliqué lui-même pourquoi il a décidé de mettre un masque pour la première fois. C'était d'ailleurs le 20 juillet dernier lorsqu'il a visité un hôpital à Washington. Alors, pour mémoire, c'est à peu près 3 mois après que les autorités de santé ont recommandé le port du masque. Donc, il n'était pas en avance, effectivement. En fait, la Maison-Blanche a toujours justifié l'absence du masque par le fait que le président est testé tous les jours et de ce fait qu'il n'aurait pas besoin de porter un masque. Donc, le 20 juillet, il en a décidé autrement et dans la foulée, il a même tweeté une photo de lui avec un masque en ajoutant la phrase que Bruce vient de citer. Certains disent que porter un masque est patriotique. Donc, indirectement, il considère ce geste recommandé par tous les experts de la santé comme un geste patriotique et non pas comme un geste, comme une mesure, en fait, on va dire, de protection. Il est donc toujours sur le terrain politique et n'a pas envie, visiblement, d'aller sur le terrain de la santé, ce qui est effectivement un indice pour essayer de comprendre le revirement de Donald Trump. A-t-il tout d'un coup découvert la nécessité sanitaire du masque ? Eh bien, on peut s'en douter, mais on sait qu'à travers des médias américains qui ont pu parler avec son entourage, que son équipe lui a vivement conseillé de porter un masque pour des raisons politique, parce que dans les sondages, le président perd du terrain face à son adversaire démocrate Joe Biden. Sa popularité chute notamment, Nathalie, dans les fameux swing states, vous savez, les États où les résultats sont très, 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 très serrés. Et ces mauvais sondages sont directement liés à la gestion de la crise du coronavirus par Donald Trump. On sait aussi, grâce aux sondages, encore une fois, que les sympathisants républicains étaient plus réticents de porter un masque que les électeurs démocrates. Mais cela est en train de changer. De plus en plus de conservateurs admettent aujourd'hui de mettre un masque quand il sort de la maison. Et en mettant lui-même un masque, eh bien, on peut dire, Nathalie et Bruce, que Donald Trump suit en quelque sorte aussi le mouvement, la tendance au sein de son électorat.
Bruce avait une autre question pour vous, Harim. Bruce, on vous écoute.
Oui, Nathalie, j'ai une deuxième question. Je veux savoir comment la Covid et sa gestion par le président Trump influence-t-il les électeurs, alors que les sondages montre que Joe Biden est largement en tête.
Oui, Harim, 3 mois, hein, plus que 3 mois avant la présidentielle. Est-ce que cette crise du Covid donne un avantage aux candidats démocrates ?
Eh bien, la réponse est oui. Oui, indéniablement, un sondage national de la chaîne CNN d'il y a 10 jours montre que Joe Biden est à 12 points devant Donald Trump. Et la majorité des personnes interviewées disent avoir plus confiance en Joe Biden qu'en Donald Trump pour gérer la crise du coronavirus. Donc, il y a un lien étroit entre les sondages et le coronavirus. Alors, selon un autre sondage de la chaîne Fox News, un tiers des électeurs estiment que le Covid est le défi majeur auquel le pays est confronté avant l'économie et le racisme. Et depuis le mois de juin, le nombre de personnes qui estiment que le président gère bien la crise sanitaire est en baisse constante. Donc oui, Bruce, Joe Biden tire un avantage très clair de la crise du Covid malgré le fait qu'il n'est pas finalement, il n'est pas si visible que ça. Il est moins visible que Donald Trump qui lui est effectivement omniprésent à la télévision et surtout sur les réseaux sociaux.
Donc il en tire avantage avec un minimum d'effort. Merci Harim Lipold de vos explications. Merci à Bruce pour son appel. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à parler du Covid, mais cette fois chez vous, en Afrique. Observez-vous toujours les gestes de prévention? Quelle est la situation chez vous? On attend vos appels.